Bonjour à tout le monde, merci d'être présent aujourd'hui. Bienvenue à vous sur Le Crabe Incompris, le média où l'on parle de santé mentale sans filtre et sans tabou. Moi, c'est Nicolas. Il y a bientôt 6 ans, j'ai quitté mon chez-moi, la Guadeloupe, avec une idée en tête. Créer un projet qui rassemble et qui ouvre la discussion autour de la santé mentale. Parce que très jeune, moi aussi j'ai souffert. Et autour de moi, j'ai vu beaucoup de proches, beaucoup de jeunes vivre des difficultés sans toujours trouver les mots et des personnes avec qui parler. À l'heure de cette expérience est né un projet, le Crabe Incompris. Un projet pour sensibiliser, donner la parole et rappeler à chacun qu'il n'est pas seul. Le symbole du projet, c'est Krabi, un crabe inspiré de ma commune, Mornalo. Au début, tout passait par des BD que je partageais à mes camarades. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller encore plus loin avec ce média, de porter des messages, de créer des échanges et de permettre aux gens de se sentir compris. Alors aujourd'hui, justement, on accueille Patrick, étudiant à 3IL, et Kailash, étudiant à la Croix-Rouge Compétences, qui viennent nous parler de leur chez-eux. Je vous demande de les applaudir. Bonjour Kailash, bonjour Patrick, merci et bienvenue sur ce média.
Bonjour Nico.
Bonjour Nico, bonjour tout le monde.
Et du coup, avant de commencer, je vais vous demander de vous présenter. Est-ce que Kai, tu peux te présenter et raconter ton parcours ?
Bonjour à tout le monde. Moi, je suis Kailash Rodriguez, étudiant en 3e année d'assistante sociale à la Croix-Rouge. J'ai 25 ans, je suis originaire d'Espagne, j'ai la double nationalité, franco-espagnole, plus précisément l'Andalousie. Et si on est encore plus précis, Almeria, le département dans la grande région d'Andalousie. C'est au sud de l'Espagne. Et je suis arrivé en France, une longue histoire, mais il y a 11 ans permanent.
Ok. Et toi, Patrick, est-ce que tu peux faire la même chose ?
Ok. Moi, c'est Patrick Yoba. Je suis originaire du Cameroun. Et donc, j'ai effectué une prépa intégrée au Cameroun. Et il faut savoir que cette école-là, donc PrépaVoc, elle est en partenariat avec 3IL. Donc, je suis arrivé à travers ce partenariat à 3IL pour poursuivre mes études. Et donc, ça s'est fait il y a 10 mois, donc en août 2025.
D'accord. Kailash, une petite question pour toi. Tu es né en France, tu as grandi en Espagne et tu as voyagé dans de nombreux pays. Je te laisserai raconter peut-être tout à l'heure si tu le souhaites. J'aimerais te poser une question. Quand on te demande d'où viens-tu, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu dis?
Ouf, c'est compliqué. En général, c'est ça ma réaction. J'ai tendance à dire que je suis un Andalou creusois. Ça serait le plus simple. Donc, j'ai grandi entre les deux tout au long de ma vie. Et je ne pourrais pas séparer l'un de l'autre.
Ok. Je vois que tu as rapporté un objet. Est-ce que tu peux nous le présenter?
Bien sûr. Donc, c'est un objet auquel je tiens. C'est le drapeau de l'Andalousie. Merci. Du coup, c'est vert, blanc, vert. Le vert, je crois que c'est aussi un historique de l'islam, parce que l'Andalousie a été musulmane pendant 800 ans. Et le blanc, c'est quelque chose comme l'égalité. Et le vert, c'est aussi le Guadalquivir, donc l'immense fleuve de chez moi en Andalousie.
Et qu'est-ce que cela représente pour toi? Pourquoi l'avoir amené aujourd'hui?
Donc, des fois, j'ai le mal du pays. Ça m'arrive souvent. Quand je suis en Espagne, la France me manque. Et quand je suis en France, l'Espagne me manque. Et du coup, ça, c'est un bon petit souvenir pour me rappeler qu'un jour, j'y retournerai peut-être.
On va reparler tout à l'heure de ton mal du pays et la manière dont tu gères. Et toi, Patrick, c'est quoi ton chez-toi? Est-ce que tu peux nous décrire chez toi au Cameroun?
Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais ce qu'on appelait un enfant à ce moment. Donc, moi, j'ai toujours grandi, comme on dit chez nous, entre les jambes de ma maman. Donc, j'ai grandi en famille. Quand je rentre à l'université même, je suis en famille. Et je décide finalement d'aller à PrépaVoc. Donc, là, je chiale comme un môme. Donc, le chez-moi, c'est entouré de mes parents, de mes frères. Donc, on s'est taquiné très souvent. Donc, c'est dans cet environnement-là que moi, j'ai grandi.
Ok. Et du coup, pour parler de ta famille et de ton parcours jusqu'à Limoges, du coup, chez toi, ça représente ta famille. Tu as dû quitter ta famille pour venir étudier à Limoges. Lors de nos échanges, j'ai cru comprendre que ton arrivée en France ne s'était pas passée de la meilleure des façons. C'était un peu compliqué. Est-ce que tu peux nous raconter?
Alors là, mon voyage, c'est vraiment une expérience que j'aimerais pas revivre. Donc déjà, je suis en barque à l'aéroport international de Yaoundé, Simalène. Et donc, normalement, c'était prévu que je fasse deux escales. Donc une à Addis Abeba en Éthiopie et l'autre en Allemagne. Donc j'embarque. Donc déjà là, la séparation, c'était pas facile. Donc je pleure, je chiale, parce qu'il faut savoir, moi je suis quelqu'un de très sentimental. Donc je pleure. Et finalement, je rentre dans l'avion avec toute l'émotion. J'arrive à mon escale à Addis Abeba. C'était une escale d'1h15. Et pendant l'escale, je m'assois près d'un poteau. Et il y avait beaucoup de monde. Et là, mon chargeur, il se casse. Donc là, je commence à être en sursis parce que ma batterie, elle se décharge. Donc j'envoie un message à mes parents. Je leur dis, là, il y a ma batterie qui va me lâcher dans quelques instants. Malgré tout, j'embarque pour Addis Abeba, pour Francfort plutôt, et mon téléphone il s'éteint. Et par-dessus tout, je loupe mon avion parce que l'escale c'était une escale de 15 minutes. Donc je me retrouve à devoir attendre à Francfort pendant près de 4 heures. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas de famille en France, donc tout avait été préparé à l'avance. Donc on avait réservé un train. Un bus plutôt, qui devait me récupérer, que je devais prendre après mon arrivée à Paris. Donc, vu que je loupe mon vol, forcément, je loupe mon bus. Donc, je me retrouve à devoir chercher un nouveau moyen pour me rendre à Limoges. Et donc, il y avait ça, et il y avait aussi le fait que j'avais mes trois valises, donc j'étais tout seul. Donc, très vite, je me rends compte qu'en fait, les mentalités de l'Afrique et celles de l'Occident, sans vouloir dénigrer qui que ce soit, bien sûr, sont très différentes. Donc, j'avais mes trois valises, une de 30 kilos, une autre de 25 kilos et l'autre de 15 kilos à peu près. Donc, je dois les traîner tout seul. Et à aucun moment, il y a quelqu'un qui propose de m'aider, tu vois. Donc, ce que je fais, c'est que... pendant 15 mètres, je porte celle de 30 kilos, et ensuite l'autre de 20 kilos, et l'autre de 15 kilos. Et j'ai fait ça de l'aéroport jusqu'à la gare. Et donc là, j'arrive à la gare, j'ai réussi à charger mon téléphone tant bien que mal. Et voilà, j'appelle une pote, elle est en Allemagne, elle me réserve un train, mais le train il venait à minuit, tu vois. Et donc là, je reste à l'aéroport de 14h à minuit, dans le froid, tu vois. Et c'est comme ça que mon voyage s'est fait, avec toutes ces difficultés-là.
Ok, merci pour ton intervention. Kailash, on parlait de nostalgie, de l'Espagne. Qu'est-ce qui te rappelle chez toi, en Espagne? Peux-tu nous en parler?
Moi, en général, c'est simple. Dès qu'il fait beau, dès qu'il y a du soleil, du ciel, moi je suis heureux, ça me fait penser à l'Espagne. Je viens vraiment d'Almeria, donc c'est le désert absolu. Les nuages, c'est assez rare. Et l'hiver, il fait 18 degrés. Donc, dès qu'il fait bon, je suis heureux. Et le reste du temps, je suis plutôt malheureux. Donc, les longs hivers où il pleut beaucoup de Limoges, ils sont durs à vivre.
Pendant l'échange, je t'ai demandé qu'est-ce qui représentait chez toi. Tu m'as parlé de claquettes. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que ça signifie?
Les tongs, pour moi, chez moi, c'est particulier. Donc, Almeria, il fait toujours chaud et on se balade toujours en claquettes, en tongs. Et c'est pas aussi simple. Il y a plusieurs styles de tongs. Attention, hein. Il y a les tongs pour aller dehors, il y a les tongs pour aller dans la montagne et il y a les chaussons qui sont aussi des tongs. Et c'est les trois mêmes, mais c'est pas les mêmes. Donc, ça donne des trucs rigolos. Quand j'invite des amis chez moi en France, du coup, bah, c'est français. Et je leur dis, ils me disent, t'as pas des chaussons parce que franchement, c'est froid le carrelage, tout ça. Je dis, oui, regarde là, cherche. Et du coup, ils reviennent 10 minutes après, j'ai pas trouvé les chaussons. Je dis, bah, là, il y en a plein. Il y a 15 paires de tongs empilées pour les cousins et tout le monde.
Patrick, je sais qu'on n'a pas travaillé cette question, on n'a pas parlé, mais est-ce que, comme Kailash, il y a quelque chose qui te rappelle chez toi quand t'es triste ou...
Oui. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis très friand d'un repas. Et ce repas-là, donc quand j'étais chez moi, c'était les omelettes. Et donc, à chaque fois que je fais mes omelettes, je pense à ma famille, à chez moi, à ma tante qui me faisait ces omelettes-là. Et donc, il m'arrive. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. Mais t'imagines à chaque fois que je prends mon petit-déj, donc je réalise très souvent que je suis plus chez moi.
En parlant de chez toi, donc tu as réussi à prendre le bus pour aller à Limoges. Dans le bus, tu m'as dit que tu as entendu quelque chose, un langage. Peux-tu nous décrire ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu et nous expliquer un peu ce moment ?
Ok. Je rentre dans le bus, mon téléphone il est déchargé, donc je réfléchis, je vais demander le chargeur à qui. Et donc, dans mon dos, j'entends des personnes qui discutent et très vite, j'entends un mot, c'est une expression au Cameroun, j'entends « équi ». Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une expression qui est très connue au Cameroun. Quand quelqu'un il est étonné, il ne va pas te dire « pardon », il va te dire « équi ». Donc, très vite, j'essaie, c'est des Camerounais. Donc, je me tourne. Je leur dis, vous êtes Camerounais, vous ? Ils me disent, oui. J'ai dit, d'où ? De Yaoundé ? Ils me disent, oui, oui. Donc, et puis, je lui dis, tu peux me passer ton chargeur ? Et puis, ils me passent le chargeur. Et c'est comme ça que j'arrive à charger mon téléphone.
Avant de venir en France, tu m'as parlé d'une checklist que tu as faite pour te donner des objectifs une fois arrivé en France. Est-ce que tu peux nous parler de cette checklist ? Et qu'est-ce que tu voulais accomplir ?
Donc, quand je suis au Cameroun et que mon voyage il est tout prêt, il y a le visa, il y a tout, donc je me fixe des objectifs et j'y les écris quelque part. Je me dis, quand tu arrives, tu trouves un taf. Et après ce taf-là, tu te fais des bons potes. Et après les potes, tu trouves une alternance. Et alternance CDI, tu vois ? Et donc, j'avais ma checklist, j'avais ma to-do list. Et voilà, c'était ça. Donc, job étudiant, ensuite, je me fais des potes, et ensuite une alternance, et puis un CDI dans le futur.
On va revenir tout à l'heure sur cette checklist, et notamment du job étudiant. Je pense que tu as une anecdote à nous raconter. Je vais switcher sur Kailash. Quand tu arrives en France à l'adolescence, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi ? Changer de pays, changer de culture ou trouver ta place parmi les autres ?
Donc, il faut savoir que moi, j'ai vraiment grandi entre les deux pays. J'ai beaucoup alterné entre la France et l'Espagne. J'ai fait mon CM1 et mon CM2 en France. Et ma mère est française et on a vécu beaucoup d'années en France aussi. Donc, ma famille, c'est une famille andalouse, espagnole. On a quitté l'Espagne après la guerre parce que c'était plus vivable pendant les grandes famines. Et donc, il y a un grand bout de ma famille qui est né en Espagne et un grand bout de ma famille qui est né en France. Ma mère fait partie de ceux qui sont nés en France. Et donc, on a grandi dans une double culture entre la culture andalouse et la France qu'on ne connaissait pas si bien parce que les cultures ne se mélangent pas très bien en France en général. Et donc, quelque chose de difficile qui a été en arrivant en France, c'était donc moi en Espagne, je suis plutôt timide, un peu réservé, casanier. Et en Espagne, j'étais plus du tout la même personne. Et en France, pardon, j'étais plus du tout la même personne. J'étais extrêmement extraverti, je sortais tout le temps, je voulais tout le temps être dehors. Et les autres, c'était pas du tout leur délire. Ils voulaient rester à la maison, jouer à la play, ce genre de trucs. Et c'était dur de retrouver son identité à chaque fois d'un pays à l'autre parce que c'était pas tant que j'avais changé, c'est juste que le plus timide des Andalous est quelqu'un d'extrêmement extraverti en France. Ça, c'est difficile de s'y retrouver, je trouve aussi.
Du coup, Patrick, on revient à ta checklist. Sur cette checklist, tu avais noté de trouver un job étudiant. Comment s'est passée cette recherche ?
Déjà, j'étais très motivé au début. Donc, j'arrive très tôt par rapport au reste de mes camarades. Je fais mes CV, je fais tout ce qu'il y a à faire. Donc, je commence à postuler. Je me rends même sur place. Donc, j'ai un premier entretien avec une entreprise que je ne vais pas mentionner. Donc, il me propose un job, mais ça va être sur tout mon week-end, donc tout le samedi et tout le dimanche. Et je sais que j'entre en cycle ingénieur, donc ça va être assez compliqué. Il faudrait que je prenne du temps aussi pour moi. Donc, je décide finalement de ne pas accepter cette offre. Et après ça, il n'y a plus rien. Mais plus tard, je trouve un job étudiant, donc chez Complétude, pour donner des cours de répétition. Et chez Kinugard en tant que nounou. Mais je signe le contrat et je n'ai pas de famille, tu vois. Donc, c'est-à-dire, j'ai un job étudiant, mais concrètement, je n'ai pas de mission, tu vois. Et après ça, j'arrive quand même à trouver des contrats. Mais ces contrats-là, le tout premier que je trouve, il est à 15 km. 15 km de chez moi. Mais j'ai envie de me faire de l'argent. Donc, finalement, j'accepte. Je ne savais pas encore ce qui m'attendait. Donc, je vais à la maison du Vélim. Je prends un vélo électrique. Et donc, à ce moment-là, il faut savoir, on est en mois de décembre. Donc, l'hiver, ça commence. Donc, je prends mon vélo. Je suis courageux. J'ai envie de me faire de l'argent. Je ne regarde que l'argent. Je prends le vélo et puis je me mets à pédaler. Et déjà, je croyais que la batterie, elle était illimitée. Donc, j'y vais, j'arrive, tranquille. Donc, je fais les premiers 15 km. Déjà, le papa, quand j'arrive, il me regarde. On aurait dit qu'il avait vu un monstre. Je lui dis, je suis venu à vélo. Il me dit, t'as fait quoi? Je lui dis, je suis venu à vélo. Donc, je fais le cours. Et puis, je prends la route pour rentrer. Et au bout de 1 km, la batterie, ça me lâche. Et t'imagines bien, vélo électrique, sans assistance, pendant 14 km. Ah oui, c'était pas facile. voilà, c'était la petite anecdote concernant ce job-là. Mais après, avec le temps, j'ai appris à rechercher des élèves et tout. Donc maintenant, ça va un petit peu mieux, oui.
On avait échangé, tu as vécu notamment des périodes difficiles, on va revenir là-dessus. Mais Kai, j'aimerais te poser aussi une question un peu plus personnelle. Quand tu es arrivé en France, qu'est-ce qui t'a aidé à t'adapter? La famille, l'environnement, le fait que tu as voyagé dans beaucoup de pays, est-ce que tu peux nous expliquer?
Alors, c'est vrai que du coup, nous, on est devenus une famille nomade un peu forcée. Donc, ma famille n'est pas beaucoup plus particulière que d'autres. Les métiers sont plutôt genrés. Donc les hommes travaillent dans le bâtiment. Nous, on est coffreurs dans la famille. C'est ceux qui font les coffres en acier pour couler le béton dedans. Et en général, on fait des ponts avec, ce genre de trucs. Et les femmes, du coup, sont dans le care. Elles sont surtout aides-soignantes, aides à la personne. Donc le plus gros du revenu vient du mari parce que c'est dans le bâtiment qu'on a des postes qui rémunèrent le plus et où on peut monter le plus vite. Et c'est des grands déplacements. On va d'un bout de la France à l'autre. Millau, ma famille était quand ils ont construit le viaduc. C'était d'ailleurs Rodriguez, le chef de chantier. Caen, Lille, Toulouse, Marseille, toutes les villes, dès qu'il y a des ports à construire, ce genre de trucs. Et du coup, ça fait qu'on est forcé de trouver des métiers par rapport à ça, qu'on est une femme, surtout, et s'adapter constamment. Et du coup, on suit le parcours de notre famille. Donc les enfants aussi doivent s'adapter constamment. Tous les 1 an, 2 ans, tu déménages. C'est dur à vivre. Moi, j'avais la chance que je retournais régulièrement en Espagne. Et en Espagne, c'était un point d'attache où j'étais tout le temps au même endroit avec les mêmes gens. Et ça me rappelait, c'est un endroit où, en général, quand on grandit quelque part, notre position elle est fixe. Les gens ils nous perçoivent d'une certaine façon. On est enfermé dans cette perception et on peut pas. On doit négocier dans le carcan dans lequel on nous a mis. Quand on déménage tout le temps, on a une option de changer de personnalité, pouvoir tester des nouvelles choses. Tu évolues, donc tu as envie de faire évoluer ta personnalité aussi. Et donc, ça, c'est dur aussi de s'y retrouver là-dedans, surtout que même si on a la chance de pouvoir devenir une personne qu'on n'était pas avant, il y a des éléments extérieurs qui nous obligent à négocier avec le réel. Je pense au racisme, par exemple, ou souvent on est obligé de se mettre dans une certaine posture qui est celle qu'on attend de nous. Ça va être l'espagnol, il est drôle, il fait tout le temps des blagues, donc on va devenir le gars rigolo de la classe. Ou alors, les Andalous, c'est des gitans, donc on va être obligé d'être quelqu'un de violent. Des fois, on est mis en dehors des groupes et on n'a que certaines façons de s'en sortir. Donc, s'adapter à tout ça, c'est difficile, surtout que ce n'est pas tout le temps de la même manière, dépendant de où on va. Il y a énormément de solitude. Quand moi, je me rappelle, dès que j'entendais un nom à connotation espagnole ou arabe, les styles de noms de famille que je connaissais en Espagne, j'étais très content et ça me rapprochait directement de lui, même si lui ne comprenait pas pourquoi. Moi, je savais pourquoi, j'étais très content. Voilà, t'appelles Gomez, tu sais pas que t'es espagnol, mais moi, je te le dis, tu l'es. Voilà, il faut apprendre à s'adapter. Moi, j'ai eu de la chance que j'avais l'exemple des gens de ma famille qui, eux, c'était encore pire parce que moi, j'ai eu la chance de toujours être bon élève. Moi, je n'aimais pas particulièrement l'école, mais du coup, je n'avais pas les profs contre moi, j'avais que les autres élèves. Là où tous les autres membres de ma famille avaient le racisme des profs plus le racisme des élèves à vivre. Du coup, ça fait que je suis le seul avec le bac de ma famille et on est nombreux. Donc j'ai pu avoir les conseils des autres, plus le fait que je n'ai pas subi pleinement le racisme de la société. Il y avait quelques exutoires.
Et justement, dans ton parcours, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont aidé, accompagné ? Ça peut être toi-même, des amis, la famille. Qui sont ces personnes ?
Alors, malheureusement, souvent, quand on est étranger en France, celui qui nous aide le plus, c'est nous-mêmes. Savoir prendre sur soi, prendre les insultes racistes sans répondre négativement, savoir s'adapter. C'est des choses que tes parents ne comprennent pas forcément, que ta famille ne comprend pas forcément non plus, parce qu'ils sont en mode « nous, on s'en est sortis », mais oui, bon, toi, c'était il y a 30 ans, je suis plus la même société, c'est plus compliqué. Après, en deuxième, c'est surtout ma mère. Hein. Moi, j'ai grandi avec ma mère. Je suis un fils à maman aussi. Et donc, elle m'a beaucoup aidé, beaucoup soutenu, même si elle travaillait beaucoup. Du coup, je ne la voyais pas beaucoup. Ça fait qu'on est très seul. Et ouais, en général, c'est la personne qu'on décide qui va être notre ami. Hein. Moi, comme j'ai dit, Gomez, Perales, tu finis en aise, ouais, tout mon ami.
Et justement, en parlant des personnes qui ont été importantes pour toi, je sais que tu détestes ça, tu es très pudique sur tes émotions. Mais il y a une personne qui a souhaité te passer un message, on va l'écouter.
Hola cariño, toutes ces années que j'ai partagées avec toi ici et là et avec eux là-bas, des vacances en mode vagamundo, alors c'est sûr que le chez nous n'est pas vraiment conventionnel. J'ai voulu te montrer que partout c'est chez nous, et ouais. Et que les autres sont tous comme nous. Et ouais, que tout est possible. Yes. Une chose est sûre, je suis fière de la belle personne que tu es et que tu as toujours été, mon fils. Merci d'être là. Où que tu sois, fais ton bonheur. Sois heureux avec qui tu veux. Te quiero, Kai.
T'es un bâtard. Elle a dit ce que j'ai dit. En gros, on choisit nos amis et on n'a pas forcément le chez soi et c'est nous qui décidons de ce qu'on veut devenir, hein. Avec ce qu'on nous permet d'être, bien sûr.
Merci à elle et merci à toi. Patrick, on revient à toi. Tu as vécu des difficultés, des moments compliqués. À quel moment l'accumulation de toutes ces difficultés ont commencé à avoir un impact sur ton moral ?
Très vite, je réalise que je me sens seul. Que ce soit quand je finis les cours ou même à l'école. Donc, je rejoins 3IL et je me sépare de mes amis. Donc, on nous divise. Donc, moi, je rejoins 3IL. Il y en a qui vont à Rouen, il y en a d'autres qui vont à Troyes, d'autres à Montpellier. Et donc, mon groupe d'amis, donc mes vrais, mes sûrs, ils vont à Rouen. Donc, je me retrouve à 3IL très seul. Donc, à 3IL, sans vouloir. Insinuer quoi que ce soit, mais il y a des groupes. Donc, quand c'est la pause, je ne sais pas dans quel groupe me mettre. Donc, je me retrouve à manger tout seul. Et quand je finis à l'école, quand je rentre, je me sens tout seul. Et en parallèle, à ce moment-là, je recherchais un job étudiant et j'en trouvais pas. Donc, la solitude et ce sentiment-là de ne pas, et ce sentiment-là de ne pas accomplir ce que je m'étais fixé comme objectif, ça commence à déteindre sur moi. Donc, très vite, je rentre dans une phase de déprime. Et je vois un psy. Et je traverse cette phase-là qui dure quand même assez longtemps vu qu'elle fait trois semaines. Et pendant trois semaines, je ne vais pas en cours.
Et dans cette période, tu m'as dit qu'il y avait ta référente de formation qui t'a aidé à surmonter ces moments où tu ne venais pas en cours. Est-ce que tu peux en parler ?
Oui. Effectivement, donc quand je ne vais pas en cours, je reçois un mail. Monsieur Patrick Yoba, pourquoi vous ne venez pas en cours ? On peut en parler. Donc, je vais dans son bureau. On en parle et là, je craque. Et donc, effectivement, elle se rend compte que je traverse une phase qui est assez difficile. Et elle m'écoute. Donc, elle joue un petit peu le rôle de ma confidente et, entre guillemets, de mon maman. Et d'ailleurs, je lui remercie parce que sans elle, je n'aurais pas pu traverser ces phases-là. Donc, on discute, on parle de sujets vraiment très personnels. Elle m'écoute. Et à un moment, elle se rend compte, en fait, avec toute l'humilité, qu'elle ne peut pas porter cette charge toute seule. Et donc, elle me conseille de voir un psy qu'elle connaît très bien.
Et comment as-tu réussi à aller mieux par rapport à cette situation ? Comment vas-tu aujourd'hui ?
Au-delà du fait que Mme Parondo, elle m'écoutait, elle a essayé de me mettre en contact avec des jeunes qu'elle connaissait très bien, des jeunes qui étaient ouverts à rencontrer de nouvelles personnes. Donc, d'ailleurs, je lui fais un petit coucou s'il aura l'occasion de voir la petite vidéo. Donc, Isma, elle me met en contact avec lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un fan de foot. Donc, il m'amène dans son club de foot, on fait du foot, il me fait sortir, fait des soirées jeux, et très vite, je retrouve goût à la vie, on va dire. Donc, ça s'est fait par le biais d'Ismaël et le travail avec le psy.
Il y a un mot que tu m'as dit durant l'entretien, je ne sais pas si on aura beaucoup de temps pour le développer, c'est la solitude, c'est un cancer. Est-ce que rapidement, tu peux m'évoquer ce que tu as ressenti ?
Oui, la solitude, c'est un cancer parce que quand tu te retrouves toute seule, tout ce que tu avais prévu comme objectif, tu n'arrives plus à les réaliser. Et tu rentres dans ce cycle infernal parce que tu te rends compte qu'en fait, tu n'arrives pas à accomplir ce que tu t'étais fixé comme objectif et en même temps, tu culpabilises et tu t'enfonces. C'est un cycle infernal. Ça recommence et puis ça recommence. Et quand tu n'as personne pour te sortir de là, tu peux très vite sombrer dans un gouffre.
Kailash, une peut-être dernière question avant de conclure. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais au Kai du passé qui n'avait pas encore vécu toutes ces difficultés, toutes ces épreuves ? Qu'est-ce que tu aurais dit au Kai qui, comme de nombreux étudiants, vont arriver dans une nouvelle ville en septembre ou peut-être plus tard. As-tu un message à faire passer ?
Bien sûr. Déjà, entoure-toi, entourez-vous. Quand on arrive quelque part, c'est important de prendre les marques de la ville, savoir où sont les éléments importants, le bar le plus proche, le club de foot... Et après, c'est de se faire des amis, des connaissances. Il faut savoir faire le tri, évidemment. Mais savoir s'entourer, ça peut être pour aller sortir, pour aller faire du sport, pour discuter de quelque chose, pour regarder un film. Ce n'est pas obligé de faire tout avec la même personne, mais avoir plusieurs personnes avec qui échanger, ne pas se sentir seul et passer du bon moment de manière générale.
Patrick, la dernière question, un peu la même que celle de Kailash. En tant qu'étudiant international, étudiant étranger, Aurais-tu un message à faire passer aux futurs étudiants qui, comme toi, seront dans ta situation?
Je vais rejoindre Keïla, c'est de savoir s'entourer. Parce que ces phases compliquées que j'ai eues à traverser, j'ai réussi à les surmonter parce que j'ai su trouver l'accompagnement qu'il fallait. Et là, maintenant, je vais mieux parce que je pense que je suis très bien entouré. D'ailleurs, on s'est rencontrés. Au-delà du podcast, j'ai découvert qu'il était une personne très formidable. Et ça, je suis ravi.
Merci. Merci à vous deux. Je vous remercie d'être intervenu sur mon podcast et de vous être confié. Je vous remercie aussi, cher public, de m'avoir écouté, de les avoir écoutés. Je vous demande de les applaudir. Et pour conclure, je voudrais faire un parallèle avec ce qu'ils ont dit. Lorsque vous avez la solitude, n'hésitez pas à vous entourer de vos amis, de la famille, de tous ceux qui peuvent être proches de vous. Prenez soin de vous, c'était le Crabe Incompris. À bientôt.